Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 199. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Les dernières stats disent que seuls 5% des actifs sur LinkedIn osent publier. C'est toujours mieux qu'il y a quelques temps où on parlait de 1%. 5% des personnes qui publient, ben ça veut dire que 95% des personnes ne publient pas. Elles lisent, elles interagissent peut-être, un like, un commentaire, mais elles ne publient pas, elles ne créent pas de contenu, elles ne donnent pas leur point de vue. Et ça, c'est une opportunité folle. Ça veut dire que 95% des gens vous laissent la place. Ça veut dire que vous avez une scène qui vous ouvre grand les bras pour être visible, pour avoir un impact et vous faire remarquer. Oui, mais voilà, si les gens ne publient pas, ça n'est pas seulement par flemme, c'est aussi bien souvent parce qu'ils n'osent pas, parce que ben, c'est impressionnant de publier. Sur tous les réseaux, c'est impressionnant, et encore plus sur LinkedIn, ben, parce qu'on parle de son activité, de sa boîte, de ce qui nous fait vivre, et que donc, ben, vaut mieux pas se planter. Oui, mais bon, c'est pas parce que quelque chose est impressionnant qu'il faut s'arrêter là, parce qu'encore une fois, c'est aussi une superbe opportunité de visibilité. Alors je me suis dit qu'on avait besoin d'un épisode qui nous montre comment trouver la force de publier, comment mettre de côté tout ce qui nous empêche d'appuyer sur le bouton « publier ». Et pour ça, ben j'ai invité une pro de LinkedIn pour nous donner ses meilleurs conseils. J'ai nommé Dorine Ibrelil. À la fin de cet épisode, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous jeter sur votre réseau social favori et de raconter, raconter, raconter. Allez, c'est parti. Je vous propose d'accueillir tout de suite Dorine Ibrelil. Bonjour Dorine, bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle, ben, écoute, bon matin parce qu'on est au Québec.
Et oui, tu nous parles depuis le Québec. T'es française hein Dorine?
Oui.
T'es française, mais tu habites au Québec. Donc là, au jour où on enregistre cet épisode, en France, il est 13h et au Québec, il est, tu me disais, quelque chose comme 6h du matin, c'est ça?
Il est 6h49, exactement.
Ah là 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 là. Donc Dorine s'est levée très très tôt pour vous, pour nous, pour moi, pour pouvoir eh ben, nous parler d'un sujet que je trouve vachement intéressant parce qu'il touche beaucoup beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est que, et on le voit notamment sur LinkedIn, on le voit beaucoup, vous avez déjà entendu cette stat qui dit que, alors moi j'ai lu les dernières stats, disent que c'est maintenant 5% des utilisateurs qui publient sur LinkedIn, et en fait on a 95% des gens qui ne publient pas, qui lisent, qui peut-être interagissent parfois, mais qui ne publient pas, et en la majorité du temps, très souvent en tout cas, quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous ne publiez pas, et ben c'est parce qu'ils flippent un peu, ils sont pas méga à l'aise avec l'idée de publier, et on voulait parler de ça ensemble, Dorine, de et ben, cette peur de publier, comment est-ce qu'on peut un peu se déstresser, se décomplexer d'aller publier sur les réseaux sociaux. Donc merci, c'est toi qui m'as proposé ce sujet Dorine et merci beaucoup parce que on n'en parle pas tant que ça, on le sait mais on n'en parle pas tant que ça et il y a des stratégies, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour publier et on sait à quel point c'est important de pouvoir publier, de pouvoir travailler correctement sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi de venir nous parler de ça. Avant qu'on démarre tout de suite sur le sujet, est-ce que tu peux nous dire Dorine qui tu es et ce que tu fais?
Eh ben écoute, avec plaisir. Donc moi je suis française expatriée à Montréal depuis 2020 et depuis un petit peu plus d'un an maintenant, je suis stratège digitale. Mon réseau social favori, c'est LinkedIn. J'utilise un petit peu d'autres réseaux sociaux, mais au quotidien, j'aide mes clients qu'ils soient québécois ou français, parce que je peux travailler dans les deux pays, à justement avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, donc avoir plus de clients. Donc ça passe aussi par de la stratégie.
Ah bah super. Et alors, quand on parle des réseaux sociaux et de cette fameuse problématique-là de publier, qu'est-ce que tu dirais, toi, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, non, mais elles ont raison, il faut que j'aille publier sur LinkedIn ou autre, hein, on va parler de LinkedIn, mais ça peut être à peu près sur n'importe quel réseau social. Faut que je publie, mais en fait, je flippe. Moi, ce que j'entends souvent, c'est, non, mais attends, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Si je publie, que je raconte un truc un peu idiot, ben, ma carrière est finie, il y a tous mes collègues qui vont voir, mon boss, il va se dire que, ben, bon, bref. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour décomplexer, pour se dire qu'on peut y aller?
Alors, moi je dirais déjà, faut se détendre. Je
Déjà.
pense déjà, détendons-nous. LinkedIn, ça fait vraiment peur parce que c'est le réseau des professionnels. Puis il a eu très longtemps cette image de on est là pour mettre un CV et puis on a tous un petit balai et puis on a la petite cravate et puis tout va bien. Maintenant, LinkedIn, c'est plus ça. Il a beaucoup évolué. Et les réseaux sociaux, moi je pars du principe que si c'est arrivé pour juste se faire chier, ça sert à rien. Le principe, c'est de dire, ok, je vais dire des choses qui me plaisent. C'est pas un poste qui va ruiner une carrière. Il y a des gens qui vont les voir, il y a des gens qui ne vont pas le voir. Donc de toute façon, il faut juste se dire, on relaxe un petit peu, on se détend, on prend une inspiration par le nez, comme on dit au Québec, et on tente. Je sais que c'est plus facile à dire une fois qu'on l'a fait, mais quand on regarde un petit peu le prisme de dire, en fait, ma carrière ne va pas être foutue sur un poste. Juste, je vais parler, que ce soit de mon boulot, que ce soit d'une conviction, de quelque chose que j'aime, je vais partager. Et généralement, quand on le fait vraiment de bon cœur, les choses se passent bien. Donc, il faut juste relaxer un petit peu.
Non, et puis t'as raison, y a un truc qui est vrai, c'est qu'on a peut-être encore cette image effectivement de LinkedIn, ce qui est logique. LinkedIn a été comme ça pendant des années, ça fait 4-5 ans maintenant max que LinkedIn a changé vraiment de braquet, mais enfin, pendant très longtemps, c'était une CV tech LinkedIn et on y allait quand on voulait changer de job en gros, hein. Tu voulais changer de job, tu disais hop hop hop, faut que je remette à jour mon LinkedIn et puis que je me mette en. Il y avait à l'époque, alors je sais même pas si ça existe encore actuellement, il y avait à l'époque je suis en recherche ou je suis pas en recherche et planqué. Ne le dites pas à mon boss, ne le dites pas à mon réseau direct que je suis en recherche parce qu'on sait jamais, je vais me faire. Bon, bref. Donc, c'est vrai qu'il y avait un côté très c'est pour le boulot, que pour le boulot, puis c'est pour trouver ton prochain job. Donc, si tu veux te prendre 10% sur ton. Ça n'existe plus, hein, les jobs où on se prend 10%, mais à l'époque, c'était ça quand moi j'utilisais LinkedIn. Si tu veux te prendre 10%, il va falloir quand même paraître intelligent, donc attention. Je dis pas qu'il faut paraître idiot et raconter n'importe quoi sur LinkedIn, c'est pas nécessairement ça, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, on peut se détendre et raconter des choses qui nous intéressent nous, parce que une raison toute simple, ce qui nous intéresse nous, très probablement intéresse d'autres personnes. Je suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement parler de son chat. On a le droit de parler de
Non.
son chat après tout, pourquoi pas, moi.
Il y en a qui le font et ça marche très bien.
Et je suis sûre que c'est le cas, exactement. Je suis sûre que si on commence à parler de choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, ça marchera parce que, déjà un truc, hein, c'est la même chose que B2C, différence B2C, B2B. Moi, les gens me disent souvent, ah oui, mais tu comprends, je suis en B2B, c'est pas comme en B2C. Bah, en fait, si, parce que bah, c'est les mêmes personnes qui sont, donc B2C vers les consommateurs, B2B vers le business. C'est les mêmes personnes qui travaillent et qui rentrent à la maison le soir. Donc, a priori, on n'est pas complètement schizophrène et on ne change pas de façon d'être et de façon de faire quand on est à la maison ou quand on est au boulot. Donc, on peut se détendre et parler d'autres choses. On peut parler de façon, je dirais, naturelle et comme on fait dans la vraie vie, sans être obligé, comme tu disais, de mettre sa petite cravate et ses trucs pour être super sérieux. Dès lors que nous, ça. Moi, c'était une amie qui m'avait dit ça un jour. Je parle de ça il y a très longtemps et ça n'a rien à voir avec LinkedIn. C'était comment est-ce que tu fais en société quand tu arrives dans une soirée réseautage pour dire des trucs intéressants? Moi, tu vois, moi, je suis complètement introvertie, c'est pas du tout mon kiff. Et elle arrivait à parler à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Je disais, mais comment tu fais? Comment tu fais pour que tu trouves des trucs intéressants à dire? C'est vachement dur. Tu as prévu des listes. Je faisais ça, moi. Hein. Tu as prévu des listes de sujets avant d'arriver. Elle me dit, ah non. Elle me dit, ah non. Alors moi, je m'en cogne complètement. Moi, je parle de trucs qui m'intéressent, moi. Et si ça m'intéresse, moi, bah, en vrai, il y a des chances que ça intéresse celui d'en face. Puis si ça ne l'intéresse pas, au moins, ça m'aura intéressé, moi. Tu vois. Et je trouvais le truc vachement intelligent, vachement décomplexant. Et ça s'applique complètement sur LinkedIn aussi, sur LinkedIn et sur les réseaux aussi de façon générale, c'est que déjà, si ça t'intéresse toi, c'est déjà pas mal. Et très probablement, si ça t'intéresse toi, ça va intéresser d'autres gens parce qu'en fait, on se ressemble tous.
Oui. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et que ça soit dans un but de trouver plus de clients ou juste de chercher un autre job ou quoi que ce soit, on est humain. Donc globalement, on a les mêmes priorités dans la vie, c'est-à-dire manger, boire, respirer, ça c'est une base. Et après, on peut juste parler de dire, bah, moi j'aime ça, j'ai des connaissances là-dessus et j'ai envie de les partager. Et en fait, d'autant plus aujourd'hui et sur LinkedIn, on va se concentrer sur l'humain, parce que je ne sais pas comment c'est en France, parce que je l'ai quitté il y a quelques années ce pays, mais ici on est en pénurie de main-d'œuvre et les gens recrutent plus seulement des compétences, ils recrutent beaucoup des humains. Donc, se montrer, parler de ce qu'on aime, c'est super important parce que ça te fait te connaître, tout simplement. On reconnaît quelqu'un à travers ses postes. Donc, je trouve que c'est important de se dire, bah, oui, peut-être que j'aurais pas fait le meilleur poste du monde. Oui, peut-être qu'il est complètement éclaté, mais j'ai essayé. Et puis, bah, ça se trouve, ça aura fait rire quelqu'un en face ou ça l'aura intéressé, tout simplement.
Ouais, c'est en fait ce dont tu parles là, c'est rien de moins que le fameux personal branding dont on entend parler partout. Qu'est-ce que c'est que le personal branding ? C'est juste de montrer qui vous êtes. Alors après, vous montrez ce que vous voulez, c'est toujours la même histoire, hein, on met le curseur où on veut. Mais il n'empêche que c'est mettre de votre personnalité dans ce que vous faites, dans ce que vous racontez. Alors sur LinkedIn, oui, bien sûr, ce que les gens aiment particulièrement, parce que c'est bien souvent ça qu'ils viennent chercher, mais c'est en train de bouger un petit peu, c'est tout ce qui est partage de valeur. C'est le partage au sens de j'ai des compétences, et quelles que soient ces compétences, qu'elles soient professionnelles ou autres, hein, ça peut être apprendre à faire une omelette, pourquoi pas, hein. Mais non, mais c'est vrai, c'est j'ai des compétences et je les partage parce que bah, voilà, l'information, le savoir, en fait, il n'y a aucune raison de le garder pour soi de façon comme ça, un petit peu radine, genre je garde mes compétences pour moi. LinkedIn, c'est un peu le lieu du partage de compétences, donc on peut y aller sur les compétences, et quelles que soient les compétences et quel que soit le marché. Moi, bien souvent, on me dit non, mais moi, je fais du B2C. Encore une fois, tu vois, je reviens sur B2B, B2C, je vends des sacs à main, ou de l'artisanat. C'est pas adapté à LinkedIn, par exemple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses parce que, encore une fois, on peut parler de partage de connaissances quand c'est de comprendre comment choisir un sac avec un bon cuir, une fleur de cuir, qu'est-ce que c'est. Il y a plein de choses qu'on peut partager qui ne sont pas directement reliées au costard cravate et la bien-pensance. Je ne sais même pas si ça existe comme mot, bien-pensance, sur LinkedIn. Mais ok. Vas-y.
Excuse-moi, je vais faire un parallèle. Par exemple, j'ai travaillé avec une artisane. Sur LinkedIn, on est très, très corporate, c'est les services, ce genre de choses. Et moi, j'ai discuté avec une artisane qui est maître verrier. On est très loin de LinkedIn. Hein. Et elle me disait, je vois que la chose est intéressante, mais je ne sais pas par quel bout prendre ça. Et je lui ai dit, écoute, partage ton travail, juste. Montre ce que t'aimes, ce que tu fais, mets des photos, tu verras, l'artisanat sur LinkedIn, ça cartonne. On croirait pas, mais vraiment, ça cartonne. Et elle l'a fait, et en faisant ça, elle a eu des collaborations. Mais juste parce qu'elle partageait ce qu'elle aimait, elle partageait son travail, et elle m'a dit, mais jamais j'aurais pensé que LinkedIn, ce réseau social-là, il m'amène là.
Ouais.
Et alors, tout le monde peut y aller.
Tu peux même l'inviter à partager plus que son travail, à partager comment elle fait, ce qui est facile, ce qui est difficile, ces choses-là. Et ça cartonne parce que les gens, mais comme tout le monde, les gens adorent découvrir ça. Et ses futurs clients potentiellement aussi, parce que c'est quand on va chez un artisan, c'est encore plus vrai chez un artisan. On vient aussi acheter une histoire, l'histoire de la personne, de comment est-ce qu'elle fabrique les choses, etc. Donc, de montrer tout ça, c'est à mon avis effectivement super intéressant. Donc, j'aime beaucoup effectivement ton premier point. Pour se décomplexer, c'est de dire déjà, on va commencer par se faire plaisir et parler de ce qui nous plaît à nous, de ce dont on a envie, parce que on a bien le droit de faire ce qu'on veut. Après tout, il n'y a pas la police de LinkedIn, sauf sujet vraiment très particulier qui nous empêche d'en parler. Donc allons-y. Il y a un autre quand même frein, moi, que j'entends très souvent, et puis c'est normal parce qu'il touche à peu près tout le monde pour publier notamment, mais pas que. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai plein de gens qui me disent non mais attends Estelle. Tu vois, moi, je ne suis pas expert de machin truc, je n'ai pas le prix Nobel de je ne sais quoi. Donc, qui je suis, moi, pour aller parler d'un sujet ? Ça, c'est quelque chose que tu vois, toi aussi ? Qu'est-ce que tu dis à tes clients, tes clientes, quand ils viennent comme ça avec cette problématique ?
Mais je pense que ça nous touche tous, même les créateurs de contenu. J'en parlais à un coach qui me disait, mais moi je l'ai encore, je le balaye un peu, mais on l'a tous, en vrai un peu. Je trouve que c'est difficile et moi je l'ai mis dans le livre que j'ai écrit, je l'ai comparé à un coloc un peu envahissant. C'est ce coloc qui va faire la fête à 3 h du matin et toi tu te dis, non mais barre-toi, juste lâche la grappe là, j'ai besoin d'un peu d'espace, mais c'est un peu ça. Et moi, ce que je dis, c'est, excuse-moi, ce que je dis, c'est, ben, en fait, on l'a tous, mais si tu es capable de parler de ton sujet avec passion, si tu es capable de partager dans la vraie vie aux gens ce que tu sais, ben, en fait, tu en sais déjà plus qu'eux. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un prix Nobel, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Si tu es capable d'en parler et de savoir des choses et de le partager, ben, lance-toi.
Ouais, absolument, je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, c'est pas être expert. Tu sais, le mot expert en français, je pense que c'est un mot qui est mal compris et qui fait peur, parce qu'on a l'impression qu'il faut être prix Nobel pour être expert. Alors qu'être expert, c'est juste en savoir un peu plus que les autres, que la moyenne des gens, être un peu plus en avance de phase par rapport à d'autres, ou l'avoir un peu plus travaillé, tout simplement. Et il se trouve que quand on travaille toute la journée, souvent 8 heures par jour sur un sujet, de fait, il y a de bonnes chances qu'on en sache un peu plus que la moyenne des gens qui ne font pas ce métier-là. Donc, dès lors que c'est votre métier, on peut considérer que vous êtes expert, bien sûr, de votre sujet. Et le syndrome de l'imposteur, je te rejoins, tout le monde le ressent, ou en tout cas quasi tout le monde. Je crois que les études disent que c'est 85% des étudiants de Harvard qui ressentent le syndrome de l'imposteur. Moi, j'adore me dire ça, parce que je me dis que si je ressens le syndrome de l'imposteur, finalement, je me rapproche de l'étudiant de Harvard moyen, donc je trouve que c'est plutôt assez flatteur. Et même des grands... Tu vois, j'ai regardé, c'est marrant, j'ai regardé son reportage Netflix hier. Même Lady Gaga te dit qu'elle ressent le syndrome de l'imposteur. La nana, elle a fait le Super Bowl. Il n'y a rien au-dessus du Super Bowl en termes de, dans son
De
propre métier,
visibilité.
en termes de visibilité. Il n'y a pas plus grand, il y a pas, c'est le plus grand événement médiatique au monde. Elle fait le Super Bowl, elle te dit qu'elle a encore le syndrome de l'imposteur. Bon, bah, fine, ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on bosse parce qu'il sera toujours là, quoi qu'on fasse. Tu peux être Lady Gaga, t'as le syndrome de l'imposteur, bah, écoute, il va falloir faire avec alors parce que niveau expertise, je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lady Gaga, oh, voilà,
Elle est
elle
là.
a prouvé, elle est là, exactement. Ok, donc toi, ce que tu dis, c'est le syndrome de l'imposteur. En gros, ce qu'il faut faire, c'est, bah oui, bien sûr, il est là, le recevoir et se dire, mais il faut pas que ça m'empêche d'avancer, c'est ça?
C'est ça, parce que au fur et à mesure, en fait, plus on se lance sur les réseaux, plus on apprend. De toute façon, au fur et à mesure, on va connaître les codes. On l'apprend à la manière douce ou à la manière un petit peu plus dure quand on se prend des vents. Mais on est capable après de dire, OK, ça marche, ça marche pas. Ça, je sais que ça plaît à mon audience, donc je vais continuer à en parler. Ça plaît pas, bah, je vais peut-être en parler un peu moins. Si je me dis que je prends pas de plaisir. Si ça te fait toujours plaisir et que ça marche pas et que t'en as envie, ben bah, vas-y. Au
Oui, ça,
final, personne va
exactement.
te contrôler.
Exactement. Ça va pas non plus tuer ton feed que de parler de faire des posts qui ne fonctionnent pas. Faut arrêter cette idée. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent ça. Moi, j'ai entendu plein de fois, oui, mais si je fais un mauvais post, ça va casser mon reach, machin. Bon, alors d'abord, casser le reach, quand on a un reach de 500 personnes à chaque fois qu'on sort un post, on s'en fiche, hein, c'est pas non plus. Voilà, les enjeux sont quand même relativement limités. Et en plus de ça, c'est assez faux, hein, l'impact. En tout cas, moi, sur les tests que j'ai pu faire sur mon profil, l'impact du reach, s'il y en a un, et c'est difficile à prouver qu'il y en ait un, il est en tout cas extrêmement limité. Moi, j'ai vu un impact potentiel, mais alors c'est difficile. Encore une fois, c'est pas statistique, sur le poste d'après. Basta.
OK.
Et je suis même pas sûre que ce soit une histoire d'algorithme. Je pense que c'est plus une histoire de si tu as, par exemple, si j'ai un poste qui a très très bien marché, je sais que mon poste d'après va bien, au moins bien marcher, ou en tout cas mieux marcher que ceux de la moyenne. Mais est-ce que c'est parce que l'algorithme donne un bonus? Je suis pas sûre. Moi, je pense que c'est juste que si on a été vu par plein 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 de gens, ben, les gens se souviennent mieux de notre nom et donnent plus d'intérêt à notre poste parce qu'ils se sont dit, ben, si j'ai aimé son précédent poste, il y a des chances que j'ai intérêt à lire celui-là. Donc bon, je suis pas du tout sûre, moi, que de faire un bon poste ou un mauvais poste ait un impact sur notre reach. Je pense que c'est un petit peu, voilà, ça nous fait plaisir de nous dire ça parce qu'on se dit, bah, c'est pas vraiment de ma faute finalement. C'est l'algorithme.
C'est l'algorithme.
Voilà, c'est le grand méchant algorithme. Mais effectivement, je pense qu'il faut pas se casser plus la tête que ça. Et dans ce sujet-là, de cette histoire de faire un bide, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, bah, qu'est-ce qui se passe quand... Enfin, parce qu'il y a plein de gens qui me disent oh, « Ouais, mais j'ai peur de faire un truc naze. » J'ai vraiment... Et ça fait quoi si on fait un truc naze, enfin, c'est, est-ce que c'est un vrai problème?
Honnêtement, la seule chose qui est meurtrice, c'est ton ego. Parce que c'est rien, en fait. Moi, tu sais, j'avais peur de ça aussi. Quand je me suis lancée, je me suis dit, oh, si ça marche pas, et puis, quelle image on va avoir de moi, et puis la petite crise de panique là, que tout le monde a, plus ou moins. Parce que dans ma tête, le beat, c'était, c'est l'image de l'humoriste qui a fait une blague ratée. Dans la salle est un blanc. Et tu sais, je me disais, je veux pas être cette personne. Sauf que sur les réseaux, en fait, si ton post, il marche pas, personne ne le voit. Donc, au final, quand tu te dis, ben, personne l'a vu, ben, c'est pas grave de se te planter. Parce que personne ne le voit. Et puis, je pense qu'on a un peu cette image de cours de récré. On se dit, ah, les gens, ils vont se moquer. Mais en fait, tout le monde est nombriliste. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a autre chose à faire. On est devenus des adultes. On a des vies, on a des enfants, on a des... Voilà, on a autre chose à faire. Donc, si ton poste, il n'a pas marché, ben, il n'y a que toi, en fait, qui est un petit peu dégoûté, c'est tout. Et au contraire, je trouve qu'un bide, tu peux en faire un buzz. Après, tu peux en faire une force. Moi, ça m'est arrivé. Et je l'ai retourné. Et ça a complètement changé la donne. Comme quoi, tu sais, j'ai fait un poste. La semaine d'après, j'en ai reparlé. Ça a fait un buzz. Et je me suis dit, ben, en fait, d'une semaine à l'autre, je n'ai pas changé.
Ah mais parce que t'as reparlé de la même chose ou t'as fait un post en disant oh là là la semaine dernière je suis deg, j'ai fait un post c'était tout naze, j'ai fait un bide et du coup celui-là a marché,
qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait ce que j'ai fait c'est que au début quand je suis arrivée sur le réseau je parlais de tourisme, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant, et j'ai fait un bide mais alors monumental, genre 200 interactions, rien du tout, et je me suis dit bah ok ça a foiré, qu'est-ce qui a pas marché? Je me suis posé la question parce que bon, mon petit ego était meurtri. Et puis je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de comprendre. Et puis j'ai regardé, j'ai analysé, puis j'ai remarqué 5 points qui n'avaient pas fonctionné. Et je me suis dit, ben, si moi ça m'arrivait, ben, peut-être que ça va arriver à d'autres gens. Donc j'ai fait un carrousel. Et du coup, j'ai mis. Ma tagline, c'était quelque chose comme t'as fait un bide et ça te déprime, je te donne 5 étapes, en gros, pour éviter que ça t'arrive. Et donc j'ai décortiqué mon poste en disant, bon, ben, l'accroche a été pourrie. Le visuel, mais alors il n'avait rien à voir, donc comment veux-tu que le lecteur y comprenne, enfin, et j'ai décortiqué tout ça et les gens ont adoré.
Ah bah oui, le partage d'expérience sur LinkedIn, c'est le truc qui fonctionne vachement bien parce que ça permet un d'apprendre des trucs, deux de se rendre compte qu'on n'est pas le seul ou la seule à faire des bides sur LinkedIn, donc ça rassure, donc évidemment. Non, ça marche très très bien, c'est une très très bonne idée, bravo, que tu as eu de retourner un poste qui fait du bide. Mais je te rejoins sur un truc que tu disais là au tout début en parlant de ce point-là, c'est qu'il y a quand même un gros avantage, alors on va dire quand on débute, si on est en train de se lancer, si on n'a pas, voilà, on ne s'est pas encore lancé sur LinkedIn, si vous n'êtes pas encore lancé, il y a quand même des chances qu'il n'y ait pas grand monde sur votre réseau. Donc si vous faites un bide, bah, personne ne sera au courant. Et même si vous avez du monde sur votre réseau, ce que tu disais très justement, c'est que si le post est naze, l'algorithme, pour le coup, ne va pas le pousser. Parce que l'algorithme fait en sorte de ne pousser que les posts qui ont l'air de bien fonctionner, de bien réagir, histoire de montrer des choses de façon globale, des choses intéressantes. Si votre post il est naze, personne ne va le voir parce que l'algorithme va faire son job et va faire en sorte de ne pas le montrer. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, vraiment, pour moi, cet argument-là de « j'ai peur de faire un bide », ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut y aller. Et encore mieux si vous faites un bide. Moi, j'invite les gens à faire comme toi, Dorine, et à analyser le bide. Et potentiellement, ça va faire un buzz derrière. Donc, ça peut toujours servir.
Ouais. Et puis, tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire, c'est quoi le bide, en fait, c'est, sans être philosophique, mais de se dire, bah, pour toi, ce qu'est un bide aujourd'hui, peut-être dans 2 jours, ça sera une victoire ou l'inverse, tu vois. Moi, je vois des créateurs qui ont 40, 50, 60 000 personnes qui les suivent. Et qui vont dire, oh là là, mais j'ai pas fait 100 likes, franchement, ce post, il était mais merdique. Non, mais la plupart des gens, s'ils font déjà 30 likes, ils sont très contents.
Ouais.
Donc ça dépend aussi de ton cheminement, de où t'en es dans le réseau.
T'as complètement raison, on a tous, on se compare toutes et tous à des gens différents et à des niveaux différents. Donc, on a toujours, quel que soit notre niveau, on a toujours l'impression que, oh là là, il y a des gens qui font tellement mieux que nous. Et ça, c'est un peu toute la difficulté de la comparaison sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que moi, la première, hein, je suis très sensible à ça, alors que je sais pertinemment, bien sûr, que ça ne veut pas dire grand-chose de se comparer sur LinkedIn, mais c'est un peu le risque. C'est que quand on regarde les posts des autres, on se dit tous « Oh, putain, mais t'as vu ce qu'il fait ? Oh là là, comment il réussit bien !» C'est tout le truc du « Oh là là, ils gagnent tous 10 000 euros par mois sur LinkedIn. Bon, » c'est le grand truc. Bon, effectivement, il faut savoir aussi remettre un petit peu les choses d'aplomb et se dire que si j'ai 1 000 abonnés, eh ben, je me comparais à quelqu'un qui en a 2 000. Et puis, si j'ai 20 000 abonnés, je me comparais à quelqu'un qui en a 40 000. Ce sera toujours, y aura toujours ce côté-là. Donc, mettons-le de côté et puis allons-y, go, et faisons-nous plaisir. Il y avait un quatrième point que tu voulais aborder pour dédramatiser un petit peu la façon de faire. C'était en rapport avec le fait d'agir, de faire les choses.
Ouais, parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu commences, t'es mauvais. Peu importe ce que c'est. Que ce soit le sport, la cuisine, n'importe quoi. Avant de faire une omelette comme Philippe Etchebest, tu vas cramer ta poêle. Ça va coller, ça va t'énerver. Ça sera pas bon. C'est normal. Tout ce qu'on fait quand on débute, c'est mauvais, c'est normal. On apprend à ramper avant de marcher. Donc, moi, je entends souvent des clients me dire « Ah, mais c'est pas parfait. Ah, mais moi, je veux que ça fonctionne et tout. » Et ce que je leur dis généralement, c'est « Mais est-ce que tu veux lever 1 million avec ton poste ?» Bah non. Bon, bah alors, pourquoi t'attends, en fait? Juste, fais-le. Moi, je trouve que si t'as pas une page de vente où tu te dis « Là, faut vraiment que ça marche parce que financièrement, tu sais, il y a des retombées où là, tu te dis « Bon, là, c'est dans le dur. Il faut que ça marche. » Si c'est juste « Oh, ben, je veux me faire plaisir, partager une connaissance », faut arrêter d'attendre la perfection. Faut arrêter parce que ça n'existe pas. En plus, je trouve que plus tu passes de temps sur un poste, plus tu vois que c'est des faux. Tu te dis « Oh là là, mais la virgule, elle n'est pas au bon endroit. Oh, et puis j'aurais dû faire ça. » Et puis, mais la vérité, c'est que la personne qui va le lire va peut-être pas le voir comme toi tu le vois. Déjà, il y a 99% de chances qu'elle ne le voit pas du tout comme toi tu le vois. Et puis, ça te mène à quoi d'attendre? À rien. Au contraire, tu perds du temps. Parce que même si c'est un bide, bah, tu vas apprendre, tu vas analyser, tu vas comprendre, puis tu vas t'améliorer. Il n'y a qu'en faisant encore et encore qu'on avance, en fait.
Ouais, ouais. C'est le fameux « better done than perfect » des Américains. Ils sont très, très friands de ce truc-là. Mieux vaut fait que parfait. Et c'est vrai que c'est un truc... En tout cas, en France, je ne sais pas si aux États-Unis ou au Canada, c'est comme ça, peut-être pas. Mais on nous a pas appris ça à l'école. À l'école, on nous a appris à avoir un A+. Alors qu'en fait, bien souvent, en entrepreneuriat, en tout cas, bah, c'est plutôt un B- qu'il faut avoir si tu veux pouvoir avancer, expérimenter, comprendre et aller plus vite et aller plus loin. Avoir le A+, bah, ça va demander tellement d'efforts en plus pour t'apporter finalement pas grand-chose de plus que le B-. Et ben voilà, bah, tu vas passer 3 ans à attendre, voire à jamais te lancer du tout. Et du coup, bah, ne pas avoir les résultats que tu aurais pu avoir, peut-être pas parfaitement avec ton B-, mais n'empêche que tu aurais eu des résultats. Quand tu n'as pas lancé quoi que ce soit, quand tu n'as pas écrit ton poste, tu risques pas d'avoir de la visibilité, ça c'est sûr. Donc je te rejoins, le mieux vaut fait que parfait, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, beaucoup en entrepreneuriat, mais c'est tellement vrai et tellement important aussi de se dire ok, bien sûr, on essaye de faire les choses correctement, bien sûr, on essaye toujours d'avoir de la qualité, c'est évident. N'empêche qu'il y a un moment donné, il faut sortir des choses pour être visible, pour vendre. Si on n'a jamais d'offres disponibles, on ne pourra jamais vendre quoi que ce soit, c'est évident.
Voilà. C'est ça. Et puis, je trouve que ça me fait un peu rire. Je ne sais pas si tu suis un petit peu l'histoire automobile ou pas du tout. Alors là,
pas du tout. Alors dis-moi, vas-y.
Mais en fait, l'histoire de Ferrari, donc Enzo Ferrari, à la base, Enzo Ferrari, il était au fin fond de l'Italie et on ne le connaissait pas beaucoup, en fait. Et en fait, ce monsieur a fait des voitures, mais exceptionnelles. Il a transformé quand même l'histoire de l'automobile. Et tu te dis, mais en fait, si tu as fait une Ferrari au fin fond de ton garage, et que personne ne sait que tu as fait une Ferrari, mais tu n'es pas plus avancé. Ta marque, elle vit pas plus, en fait. Donc, quand je me dis ça, je me dis, ah oui, mais en fait... Et l'histoire de Ferrari, elle a commencé au fin fond d'un garage, au fin fond de l'Italie. Aujourd'hui, on voit ce que c'est. Et pourtant, il a commencé, il l'a fait, il a monté, il a fait son écurie. Bref, il a commencé quelque part et il a amené à un autre point. Donc, peu importe dans le domaine professionnel dans lequel on est, le but, c'est de commencer, de se dire, bah, ça ne sera pas parfait. Si on regarde les créateurs, peu importe le créateur, tu regardes, tu vois son poste aujourd'hui, tu vois son poste il y a peut-être 1 an ou 2. Tu vois l'évolution parce qu'au fur et à mesure, ben, tu apprends, tu affines ta plume, tu te dis bon, ça marche, ça marche pas, je fais comme ci, je fais comme ça. Bon, ben voilà, en fait, c'est l'évolution. On grandit, on évolue, peu importe le domaine de la vie, et ça s'adapte aussi sur les réseaux. Donc, pourquoi vouloir faire parfait? Parce que ce sera jamais marche. Ça marchera pas au début. Donc, tentons-le. Puis au pire, si ça foire, ben ça foire.
Exactement, exactement. Eh ben super. Merci beaucoup Dorine. Je vais essayer de faire un petit résumé de ce que tu nous as
Bien
dit.
sûr.
De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de ces fameux réseaux sociaux et de cette peur qu'on ait beaucoup à ressentir, de se dire, oh là là, mais est-ce que j'y vais, est-ce que je poste, notamment sur LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn impressionne parce que c'est le réseau professionnel, donc on a souvent peur de se lancer, d'écrire un poste et d'y aller finalement. Donc toi, Dorine, tu nous dis, bah, non, il faut se détendre, on peut y aller sur les réseaux sociaux, on peut aller publier, la vie ne va pas s'arrêter, et tu nous donnes quatre grandes pistes à explorer pour pouvoir poster de façon plus, je dirais, décomplexée. Première chose, bah, c'est de commencer par prendre du plaisir, parce que les choses sont plus simples de façon générale quand on prend du plaisir. Déjà, si nous, ça nous plaît, bah, ce sera déjà pas mal. Et si ça nous plaît à nous, il y a quand même de bonnes chances que ça plaise à d'autres gens dans notre environnement. Deuxième élément, c'est démystifier ce problème du syndrome de l'imposteur. On est tous passer par là, on ressent tous le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est pas parce qu'on ressent le syndrome de l'imposteur qu'il faut s'arrêter, puisque de toute façon, on va le ressentir. Donc, on l'accueille, on le laisse de côté et point barre. Troisième élément, tu nous dis, bah, comment je fais là? Si je fais un bide, je flippe de vraiment que ça sorte pas. Bah, si on fait un bide, c'est pas grave. Parce que, un, si on fait un bide, c'est que personne ne l'a vu, donc personne ne sait qu'on a fait un bide. Et deux, bah, la seule personne qui va le voir et être meurtrie, c'est nous-mêmes. Donc c'est pas très très grave. Il faut apprendre à avoir des petits coups sur son ego, et notamment, bon, en l'occurrence, les enjeux sont pas extrêmement extrêmement élevés, surtout si on se lance, parce que faire un bide quand on se lance, franchement, c'est pas très très grave. Et faire un bide, même si on a des millions de, même si c'est Lady Gaga qui fait un bide sur son dernier post Instagram. Très franchement, on s'en fiche. Et encore mieux quand on s'appelle Dorine, si on fait un bide, on le retourne et on le fait en buzz sur le prochain post. Donc, c'est pas du tout grave de faire un bide sur les réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux, il faut se souvenir que c'est du snacking. C'est un temps très très rapide. Donc, faites un bide, ce sera, ou même faites un scandale, ce sera oublié dans 2 jours. Donc, aucun problème. Et puis, quatrième élément que tu nous dis, c'est le fameux mieux vaut fait que parfait. Allez-y, faites des choses, testez, tentez, écrivez, lancez-vous, parce que si vous ne le faites pas, ce qui est sûr, c'est que personne ne le verra, donc ça n'aura pas servi à grand-chose, alors que quand même, les réseaux sociaux, eh ben, ils peuvent vous apporter une visibilité que peu d'autres médias peuvent vous proposer, vous offrir, donc allez-y, tentez des choses, vous risquez pas grand-chose franchement. En revanche, ça peut permettre d'obtenir, eh bien, des partenariats, des nouveaux clients, de la visibilité, de la crédibilité. Donc, go, on y va, on n'hésite pas. Merci beaucoup, Dorine, de nous avoir partagé tout ça. Dorine, je crois que tu as une actualité en ce moment. T'as pas écrit un livre par hasard?
Ben si, il est en correction au moment où on se parle, donc on est en mai, il va être publié en octobre, et c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à LinkedIn. J'ai été repérée par une maison d'édition à force de poster, et donc j'ai écrit un livre sur justement prendre la parole sur les réseaux sociaux de manière professionnelle, avec cette partie décomplexée de la prise de parole, mais aussi toutes les clés pour écrire correctement sur les réseaux sociaux, avoir les codes de la matrice pour justement gagner du temps et ben, se lancer. Ce sera jamais parfait, mais au moins il y a toutes les clés pour se dire, ok, ben, là je peux y aller sereinement, je construis toute ma stratégie et puis let's go.
Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as déjà le titre du livre ou pas?
Non,
Il n'est pas
parce
encore
que
acté.
on avait un titre provisoire, mais pour la petite histoire, j'ai doublé le manuscrit en quelques
Waouh.
semaines. Ça a été un bon challenge. Des heures de sommeil ont été parties dans la bataille. Et donc, je trouve que le titre à l'heure actuelle n'est plus forcément d'actualité. Donc, je vais le changer pour
Surprise.
quelque chose d'un peu plus sympa.
Ok, génial. Eh bien, écoute, tu me diras, je mettrai à jour les notes de l'épisode et puis on mettra le lien vers, eh bien, s'il est déjà sorti. Je pense que cet épisode va sortir juste avant que ton livre sorte en librairie, mais on mettra évidemment dans les notes de l'épisode tous les liens pour que, eh bien, vous puissiez retrouver le bouquin de Dorine si vous voulez le suivre. Si on veut te suivre, toi, en savoir plus sur toi, sur ton travail, Dorine, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi?
Alors, sur LinkedIn, avec mon nom, mon prénom, tout simplement, ou directement sur mon site web, c'est plume-communication. je te le donnerai, Estelle, où je mets mes services, puis je m'adresse autant aux Français qu'aux Québécois, donc de chaque côté de l'Atlantique.
Eh ben, génial. Écoute, merci infiniment, Dorine, de nous avoir partagé tes stratégies pour vivre de façon, je dirais, plus décomplexée notre publication sur les réseaux sociaux. Je te dis à très vite.
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Salut Estelle.
Merci beaucoup Dorine d'avoir partagé avec nous tes bons plans pour enfin publier sur les réseaux sociaux sans crainte, sans peur et puis en tout cas y aller. Peut-être qu'on a un peu peur, mais on y va quand même parce que ça nous donne une visibilité dont on ne peut plus vraiment se passer maintenant grâce aux réseaux sociaux. Merci à toi Dorine. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, eh bien il y a une chose que je vous invite à faire, c'est rejoindre ma newsletter. Sur ma newsletter, vous allez avoir bien sûr un message dès qu'il y a un nouvel épisode qui est publié. Je vais vous donner un petit teasing, un petit point de vue sur cet épisode, mais je vais aussi vous donner mes bons plans, tous les cadeaux bonus et puis les événements auxquels je participe. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque 10 000 sur cette newsletter. Pour vous abonner, vous allez sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Et puis, ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine parce que si aujourd'hui, l'épisode, c'est le numéro 199, et bien la semaine prochaine, c'est l'épisode 200. Je ne sais pas encore ce que je vous réserve, mais je vais trouver un truc à vous proposer un peu sympa, un peu différent pour l'épisode 200. Je vous dis à très vite.